RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le magazine citoyen, on retrouve Lionel Sabot et ses invités.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du magazine citoyen. On va parler un petit peu de science, ça fait pas de mal de temps en temps et non pas de musique. Et pourtant, nous allons parler du projet Metallica Aliments. Je vous présente nos invités. Nous sommes avec Audrey Léopold, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IAC.
Tout à fait.
C'est bien ça. Nous sommes avec Fabien Trottet également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du CNRTech, puisque c'est comme ça que l'on dit officiellement maintenant. Et nous sommes avec Charles Vuillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agroalimentaire et manager du Pacific Food Lab.
Exactement.
Pour commencer peut-être avec vous, Audrey, ce projet Metallica Aliments, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Alors, le projet Metallica Aliments avait pour objectif donc de quantifier les métaux, donc les concentrations totales en métaux dans les ressources alimentaires donc du territoire, qui sont soit produites, soit prélevées localement. Et donc, c'est un projet de recherche qui a été financé par le CNRTech et réalisé par un consortium de différents instituts scientifiques, notamment donc l'IAC, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le Service géologique de Nouvelle-Calédonie, le GNS de Nouvelle-Zélande et l'INSERM.
C'est un projet qui s'est étendu sur plusieurs mois, plusieurs années.
Alors, c'est un projet qui initialement était prévu sur un an. Nous avons fait face à différentes problématiques, aussi bien de terrain que d'instrumentation qui ne fonctionnaient pas. Donc, c'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs années, que nous avons restitué l'année dernière, donc au centre IRD Nouméa.
Fabien Trottet, directeur du CNRTech, c'est quoi donc le CNRTech ?
Alors, CNRTech est anciennement connu sous le nom CNRT. Mm-hmm. C'était un label national, un label qui n'existe maintenant plus. Et donc, CNRTech, le CN veut dire Centre du Nickel. Ensuite, recherche, environnement, technologie et compétitivité. Notre focus, c'est que nos études, nos travaux avec l'ensemble de notre réseau servent à adresser les principales questions autour de l'activité minière et métallurgique pour supporter son développement dans une perspective responsable et durable.
Audrey Léopold, cette étude, comment elle a été menée, enfin, grosso modo, en pratique, comment ça s'est passé, sur quoi vous avez travaillé et comment vous avez fait ?
Alors, sur la partie, je parlerai moi plutôt de la partie agricole, puisque c'est celle qui a concerné particulièrement l'IAC. Nous avons très rapidement en fait intégré les différents acteurs du monde agricole, puisqu'on n'aurait pas pu réaliser ce projet sans eux, puisque nous avons directement en fait été échantillonnés alors chez eux, au champ, pour ce qui concerne les productions végétales, et avec des accords au préalable des éleveurs directement à l'abattoir en ce qui concerne la partie élevage. Donc voilà un concours vraiment très important en fait des producteurs, et ça a d'ailleurs eu un écho positif, je pense, dans le monde agricole, parce que les producteurs étaient à la fois, je pense, curieux de savoir ce qu'il en était, et puis aussi soucieux, en fait, par rapport à la qualité de leur production agricole.
Très clairement, vous avez cherché quels métaux dans ce que vous avez étudié ?
Alors, on a cherché un ensemble de métaux, notamment les métaux ou les métalloïdes toxiques, de ce qu'on appelle les toxiques stricts, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rôle biologique connu. C'est le cas, par exemple, de l'arsenic, du cadmium, du mercure ou encore du plomb. Et puis, on a cherché d'autres métaux qui sont un petit peu plus emblématiques du territoire, comme le chrome, le nickel, le cobalt ou encore le manganèse.
Fabien Trottet, c'est important de faire ce type d'études
Alors, c'est extrêmement important. Le CNRT était dans le passé déjà engagé à clarifier ce que sont nos situations d'exposition face aux risques directement ou indirectement liés aux activités minières. Et parmi ces risques, on a adressé les principaux compartiments de vie, c'est-à-dire l'eau, l'air, le sol. Et dans le sol, dès lors qu'on parle de sol, on parle d'aliments. Et la question est, alors on est toujours à l'interface entre des processus naturels et des processus anthropiques liés à l'activité de l'homme. Et toute la question est sur comment tout ça fonctionne ensemble et au final, à quoi est-on réellement exposé ? Donc oui, c'est extrêmement important. Et je dirais que c'est d'autant plus important dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, parce que dans un contexte de compétition mondiale, la plupart des pays vont chercher à s'approvisionner de manière responsable, j'en parlais tout à l'heure. Et la vraie question, c'est comment est-on capable de justifier des meilleures pratiques. Et le CNRT s'y employait dans le passé, le CNRTech poursuit son implication avec la volonté de publier des choses très très pratico-pratiques qui démontrent à quel point et comment on gère notre impact en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a vocation à le faire valoir pour soutenir le développement de ce secteur dans le pays.
Charles Villot, vous, Pacific Food Lab, en quoi ces études vous intéressent, en fait ? Parce que vous êtes un peu au bout de la chaîne,
finalement. Nous, on est au bout de la chaîne. Notre mission, c'est de mettre plus de produits locaux dans l'assiette des Calédoniens, à commencer par celle des enfants à la cantine. Mm-hmm. Donc on est très attentif à ce type d'études, déjà pour savoir si on fait bien de mettre plus de produits locaux dans l'assiette, et surtout celle des enfants. Donc oui, on suit ça de près, parce que voilà, les productions agricoles, elles ont un rôle important à jouer d'un point de vue économique. D'autant plus important, et là je relie un peu avec le contexte nickel, où on sait qu'il y a des usines qui sont soit fermées, soit pas très en forme, et donc on a pas mal de monde qui retourne aux champs. Alors, nous, côté alimentation, on voit ça d'un très bon œil parce que ça fait plus de production. Voilà. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Et voilà, d'où le partenariat et la vigilance sur ce type d'études.
De manière très concrète, comment est-ce que vous faites passer le message, j'allais dire, un chef de cantine, il n'est pas forcément ingénieur en agronomie, c'est peut-être des notions qui le dépassent. Comment est-ce que vous faites passer ce message de oui, on peut consommer mieux et consommer calédonien ?
Aussi simplement que vous venez de le faire. Voilà. Effectivement, même moi, même si je suis ingénieur en agroalimentaire, je n'ai pas forcément une formation métallurgiste ou biologiste, etc. Donc là-dessus, je me fie aux conclusions du rapport. Ce qui me rassure, c'est de voir que oui, les produits locaux, il n'y a pas de souci. Et qu'en plus, les pratiques qui sont en place à la cantine, comme le lavage systématique des produits, ça améliore encore cette situation.
Audrey Léopold, finalement, qu'est-ce qu'il faut tirer de cette étude ? Quels sont les grands enseignements de cette étude ?
Alors, ils sont nombreux.
Donc alors, allons-y. On a une petite heure devant nous, il n'y a pas de problème.
On va essayer de faire court. Non, alors, je pense que déjà, premièrement, un élément qu'on a vraiment cherché à mettre en évidence à partir de nos résultats, c'était qu'il n'y avait ni en production animale ni en production végétale, en fait, de dépassement des métaux toxiques par rapport à la réglementation. Donc, les métaux dont je parlais précédemment, l'arsenic, le plomb, donc une alimentation, des produits locaux qui sont sur ces métaux-là, particulièrement sain, et il y a énormément de contextes en fait dans le monde où ce n'est pas le cas. Donc je pense que c'est déjà vraiment important de le souligner. En ce qui concerne les métaux un petit peu plus emblématiques, c'est le cas du chrome ou du nickel. Sur le chrome, on n'a pas mis en évidence spécifiquement de dépassement ou de choses à la menthe parce que c'est un métal qui est généralement peu assimilé par les plantes et par les animaux qui les consomment. Mmh. Pour le nickel, il est arrivé que certaines denrées alimentaires présentent effectivement des dépassements. Alors, des dépassements de quoi ? Eh bien, on s'est basé sur la future réglementation européenne qui ne sera applicable qu'à partir de juillet 2025, voire 2026. Donc, on voit aussi qu'en termes de connaissances sur le nickel, on est sur des choses qui sont quand même toutes récentes. Donc, on a cherché effectivement à avoir un point de comparaison. Donc, voilà, certains dépassements, néanmoins, on est très, très loin de ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Fabien Trottet, pardon pour la question de Béotien, mais enfin, on habite quand même sur une île où on parle de nickel à longueur de journée, où on en ramasse à la main. Je vois pas où est le problème d'en trouver finalement dans les plantes et chez les animaux.
C'est bien parce qu'il faut savoir se ramener à des choses simples pour qu'on ait l'essentiel du message. Donc évidemment, nous vivons sur une terre de nickel. Nous sommes une exception géologique sur la planète. Il y a quelques pays dans le monde qui s'expliquent par la même géologie. Et évidemment, il y en a partout dans le sol, dans deux tiers du territoire. Mmh. Donc c'est évident. Mais comme l'a dit Audrey, on pouvait s'attendre finalement à en trouver beaucoup plus que ce qu'on a trouvé dans les aliments. Et la nature a ceci de formidable, c'est ce qu'on appelle le principe de fractionnement. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup dans le sol, c'est pas parce que le réservoir est immense, que tout le réservoir va finir dans les aliments. Mmh. Et c'est ce que démontre le projet, et je pense qu'on avait besoin de projets comme ça pour savoir réellement quelle est notre exposition. Parce qu'on sait qu'il y a une imprégnation humaine, et elle n'est pas forcément liée à l'activité minière, elle est d'abord liée à la géologie. On sait que ça, c'est partout comme ça dans le monde. Et on sait que les réglementations s'appuie d'abord sur le contexte local. Donc Audrey faisait référence à la réglementation. Si un jour on parle d'appliquer la réglementation de Nouvelle-Calédonie, il faudra se poser la question de comment elle est modulée en fonction des spécificités locales. Ce n'est pas un exercice facile. Hein, on voit on parle de réglementation européenne. On est un petit territoire de moins de 300 000 habitants. Mmh. Comment va-t-on l'appliquer? Ça pose un certain nombre de questions. Mais indépendamment de ça, on voit qu'à apporter des éléments qui permettent de savoir où on est aujourd'hui, quel est le risque réel, c'est fondamental et c'est ce à quoi on s'est employé. Mmh.
Charles Villot, je repense au chef de cantine. Est-ce que finalement, le chef de cantine, il ne s'intéresse pas plus à combien va lui coûter le repas qu'il est en train de faire, de savoir s'il y a je ne sais pas combien de microgrammes de nickel dans l'aliment qu'il cuisine?
Oui, forcément la préoccupation première du chef, ça reste le prix. Ça, on est d'accord là-dessus. Et après, il faut aussi s'appuyer sur un petit peu les recommandations nutritionnelles. C'est essentiel de manger des fruits et légumes frais et d'avoir une alimentation diversifiée. Voilà, ça, c'est les points aussi derrière qui sont recommandés par l'ASS. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, tout va bien dans les fruits et légumes qu'on a. On a tout ce qu'il faut, on ne dépasse pas les seuils. On est dans un contexte où, oui, il y a du nickel, oui, on en retrouve un petit peu. Il faut toujours mettre le bénéfice-risque. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si on ne mange plus de légumes frais calédoniens? On va manger au mieux, je dis bien au mieux, des fruits et légumes import. Mm-hmm. Alors on voit que suivant d'où ils viennent, ce n'est pas forcément mieux, mm-hmm. déjà. Ouais. Et sinon, si on ne mange plus que du riz et de la viande, d'un point de vue santé, on va avoir d'autres soucis. Voilà, et puis on en discutait tout à l'heure. Les soucis de santé, en ce moment, il vaut mieux les éviter. Mmh.
Audrey Léopold, l'étude s'appelle Metallica Aliments. Est-ce qu'il y a eu un Metallica autre chose avant ou qui est prévu?
Alors, il y a un Metallica autre chose qui est un Metallica santé. Donc, ouais. Le volet qui s'intéresse plutôt à la santé et qui est porté effectivement par l'INSERM parce que effectivement, les questions qui se posent. On veut savoir combien on en mange, mais on veut surtout savoir si c'est dangereux finalement pour la santé. Et donc là, c'est le rôle de nos collègues épidémiologistes de l'INSERM de s'occuper de ça.
Vous disiez tout à l'heure que quand je vous demandais quels étaient les grands résultats, vous me disiez il y en a plein et on en a pour une heure et demie. Il y en a d'autres que vous voudriez mettre en avant qui sont importants à votre sens?
Alors d'un point de vue, je pense de recommandations pour la population, on a quand même vraiment mis en évidence un impact extrêmement significatif du nettoyage des denrées avant de les consommer, avec des fois des concentrations qui peuvent être divisées par plus de 20. Mm-hmm. Donc parce qu'on a des dépôts, des poussières riches en métal qui vont se déposer sur nos légumes et nos fruits. Et puis en termes de recommandations aussi, on le sait, en fait, on l'a montré, les concentrations les plus élevées, notamment en nickel, ont tendance en fait à s'accumuler dans les peaux des fruits et des légumes.
C'est-à-dire que vous
consomme.
Avez été vraiment dans le détail, vous n'êtes pas content tenter d'aller prendre la peau de je ne sais trop quoi, de le mettre au mixeur et dans vos appareils qui calculent tout. Vous êtes allé dans le détail de savoir s'il y en avait plus dans la peau, à l'intérieur du fruit, du légume?
Alors oui, pour les denrées en fait, dont les épidermes, dont les peaux sont consommées, c'est par exemple le cas des courges, des concombres, d'un ensemble de la tomate par exemple, on a effectivement été jusqu'au détail de l'analyse de la chair, donc de la partie consommée et de la partie peau, qui peut être aussi consommée. Et effectivement, on a une accumulation préférentielle en fait, de ces métaux dans les peaux. Donc là aussi, ça suggère quand même qu'en lavant et en pelant nos fruits et nos légumes, on diminue de fait clairement l'exposition à ces métaux.
Et ça vous intéresse chez Pacific Food Lab, de savoir qu'il vaut mieux éplucher les légumes?
Voilà, ça fait partie des recommandations qu'on va aussi mettre en avant, nous, auprès des chefs. Aussi simplement que ça, parce que... parce qu'on tient à la santé.
Oui, mais
à la
vous
santé
le disiez tout
enfants.
À l'heure quand on préparait cette émission, c'est que ça a un coût d'éplucher les légumes. C'est,
voilà.
C'est pas neutre.
Ça a un coût d'éplucher les légumes. Alors, il y a certains légumes qui sont plus faciles à éplucher que d'autres. Hein. Mm-hmm. Si je prends un exemple tout simple, les concombres, il existe des petites machines qui épluchent ça à vitesse grand V à moindre frais. Mm-hmm. Il y a d'autres légumes, et là, je pense plus aux tubercules, où, oui, dans une cantine, c'est à peu près 10 kilos de l'heure d'épluchage. Et on voit bien que pour arriver à faire à manger pour 200 enfants, ça commence à faire pas mal d'heures d'épluchage. Et c'est pour ça aussi qu'on a d'autres actions en parallèle qu'on poursuit depuis des années. Et c'est ce type d'argument qui vient renforcer ça, où c'est important de transformer les légumes, les différentes gammes de fruits et légumes qu'on appelle 2G, 3G, 4G, où en fait les légumes, ils arrivent déjà épluchés et coupés sous vide à la cantine. Mmh. Ce qui fait qu'on a des produits frais qui, là, sont des, qui évitent la main-d'œuvre au niveau du restaurant scolaire.
Mmh. Fabien Trottet, est-ce qu'il est important d'avoir justement ces liens avec, des gens de chez Pacific Food Lab, des choses comme ça? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce lien avec, j'allais dire, la suite de la chaîne alimentaire, si je peux
Pour nous, c'est extrêmement important parce que les membres du CNRTEC, ce n'est pas uniquement l'industrie minière, c'est la Nouvelle-Calédonie, les collectivités de Nouvelle-Calédonie, et typiquement, on adresse des sujets par subsidiarité, c'est-à-dire là où ni l'un ni l'autre peut avoir tous les éléments de réponse. On mutualise les moyens pour travailler ensemble sur le sujet. Et on voit bien la finalité, c'est que toute l'économie, finalement, est dépendante. On voit que l'alimentation est dépendante de la qualité des sols. La qualité des sols peut être dépendante des activités qu'il y a autour. Donc, ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'on ait du feedback, effectivement, qui nous montre ce qu'apportent nos projets. On a vocation à faire œuvre utile, certes pour le secteur minier métallurgique, mais pas que. D'abord pour sa responsabilité sociétale et pour son intégration harmonieuse dans l'économie globale, dans la société, et faire en sorte que les sujets, on rassure les gens là où il y a des inquiétudes, on amène les éléments, c'est notre travail, réellement.
Audrey, est-ce qu'il a été, j'allais dire, compliqué, ou est-ce qu'il y a eu des interrogations avec les agriculteurs avec qui vous avez travaillé?
Oui, j'en parlais au début. Effectivement, il y avait un certain nombre d'inquiétudes, de peurs, hein, aussi, parce que finalement, on n'a pas de données. Et quand on n'a pas de données, finalement, ça alimente quelque part cette omerta, ce non-dit. Et je pense que c'était important de rassurer les producteurs sur ça. Et honnêtement, la plus grande majorité ont souhaité jouer le jeu et étaient vraiment très intéressés de participer à l'étude et puis d'avoir les résultats, d'où aussi la restitution que nous avons mis en place hier à destination plutôt des producteurs sur la foie.
Oui, Fabien Trottet.
Petit commentaire là-dessus. Moi, je veux vraiment les remercier. Au début de ce projet, on avait fait organiser avec Audrey une réunion à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Et l'objectif, c'était de leur présenter ce qu'on souhaitait faire. Mais on n'avait aucune garantie de leur volonté ou non de nous accompagner. Et là, comme dit Audrey, ça a été extraordinaire parce que les gens ont vraiment vu ce qu'il y avait derrière. Donc pour nous, c'était majeur. Sans ça, il n'y aurait pas eu le projet. On leur devait évidemment en premier lieu les résultats, ce que l'on a fait à la fois hier. Mm-hmm. Et on a vocation et on reste disponible pour cela. Donc ça fait, je trouve, un retour d'expérience extrêmement intéressant.
Vous le disiez tout à l'heure dans les résultats, ils sont globalement bons. Il y a sur certaines choses où on dépasse un petit peu le taux. Est-ce qu'il est possible de donner, maintenant que vous avez ces résultats bruts, des conseils peut-être aux agriculteurs pour pas pour qu'ils soient plus vertueux, je vais arriver à mes mots, mais pour qu'ils aient des techniques peut-être pour faire baisser des seuils de concentration de tel ou tel métaux. Est-ce que c'est aussi l'objectif de ce genre d'études?
Alors, bien sûr, pas directement l'objectif de ce genre d'études, mm-hmm. mais des projets que nous menons par ailleurs, notamment en ce qui concerne la valorisation des matières organiques, c'est effectivement d'aller sur des pratiques agronomiques qui soient vertueuses à différents niveaux en termes de production et de préservation de l'environnement, et aussi, quand cela est possible, de transfert en contaminant d'un point de vue global. La problématique des transferts de métaux aux plantes, c'est que ce sont des choses plurifactorielles. C'est extrêmement compliqué, ça va dépendre du sol, des pratiques agronomiques, de la plante, de son stade de vie. Donc c'est vraiment plurifactoriel, mais on le sait déjà dans la littérature, un certain nombre de choses effectivement peuvent favoriser, faire baisser les transferts ou au moins faire en sorte que les plantes se développent mieux dans un contexte métallifère et donc qu'on ait des effets de dilution de ces métaux. C'est notamment le cas lorsque l'on va contrôler le pH. On le sait, en contrôlant le pH de nos sols, eh bien, en
le
général...
Le pH, c'est l'acidité du sol, hein, c'est du ça. Sol. Je me
voilà,
souviens de mes
ça.
Cours de bio.
Voilà, exactement.
Avec les petites,
et effectivement, les sols métallifères peuvent présenter des pH acides. Donc voilà, un contrôle assez simple à avoir, ça va être, par exemple, de contrôler le pH. Alors ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons, ce sont des choses sur lesquelles d'autres collègues travaillent à travers le monde. On a des premiers éléments de réponse et effectivement, il s'agira maintenant d'aller les tester dans nos différents contextes et surtout en lien avec les différentes pratiques agronomiques et nos contextes agricoles qui sont quand même très, très, très nombreux sur le territoire.
Charles Villot, vous êtes ingénieur agroalimentaire. Ça veut dire quoi être ingénieur agroalimentaire ? Ingénieur, je vois, mais ingénieur agroalimentaire, j'ai un peu plus à
c'est...
faire.
C'est au niveau de tout ce qui est industrie agroalimentaire. Mmh. Voilà, donc c'est plus comment tourne une industrie, quels sont les paramètres à prendre en compte dans l'alimentaire. Ce n'est pas le côté agricole, ni le côté minier, c'est plus proche d'un ingénieur métallurgique dans le sens où comment on tourne une pompe, quels sont les flux dans une usine, et voilà.
Vous sentez qu'il y a une prise de conscience des gens avec qui vous travaillez à Pacific Food Lab, justement de regarder le produit avec lequel on travaille. Il y a une vraie prise de conscience ou...
Alors, c'est dans l'air du temps.
Dans l'air du temps ou...
c'est une tendance mondiale. Les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, ce qui est très, très bien. Et après, pour rentrer un peu plus dans un sujet plus vaste, mm-hmm. on est en train de changer nos modes de consommation. Je vais caricaturer un peu, mais voilà, après-guerre, c'était la famine. Donc la préoccupation principale, c'était de fournir quelque chose à mettre dans l'assiette. Aujourd'hui, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses à mettre dans l'assiette et comment on peut mettre des produits de qualité dans notre assiette pour être en bonne santé. Et voilà, je reviens du coup sur cette étude. Voilà, on peut s'appuyer sur les produits locaux. Il y a encore des choses à faire pour s'améliorer, mais voilà, comme dans tous les domaines de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, que ce soit des pratiques au niveau du champ, au niveau agricole, ou des pratiques dans la cuisine, parce qu'il y a les deux qui sont, à faire. Et après, comment on discute entre utilisateurs des produits, producteurs de ces mêmes produits pour s'harmoniser et qu'au final, ça soit une fois encore au bénéfice de nos enfants.
Fabien Trottet, je voulais dire, le champ des possibles, quand on fait de la recherche, il est presque infini. Il y a d'autres choses que vous vous apprêtez à faire, d'autres études, d'autres projets que vous avez envie de monter, qui sont déjà dans les tuyaux ?
Le champ de la recherche, il peut être infini, mais il est quand même très orienté par les besoins les plus prégnants sur le terrain. Donc là, on arrive à la fin de toute une séquence d'études, mm-hmm. mais une séquence qui a permis de poser des bases. Les questions qu'on doit se poser maintenant, c'est à partir de toute cette connaissance apportée, quelles peuvent être nos priorités. On commence à avoir bien caractérisé ce que sont les impacts sur la qualité de l'air. On commence à bien avoir caractérisé ce que sont les questions liées aux métaux dans l'eau, la disponibilité des métaux dans l'eau pour les espèces qui vivent soit dans les rivières, soit lagonnaires. On commence à bien caractériser les sols. Avec tout ça, on a une base d'informations. Maintenant, il faut décider. Et cette décision concertée, c'est là qu'on est aujourd'hui. C'est que si on veut aller plus loin, on a un territoire qui est une complexité géologique assez importante et avec des complexités climatiques de bassins versants, de topographie, etc. Ce que montrent tous les résultats des projets qu'on a menés, c'est qu'aujourd'hui, si on veut aller plus loin, il faut faire des études de grande envergure sur tout le territoire et pendant des longues durées. Donc il faut un programme dédié. Voilà, donc je crois que les questions qu'on doit se poser maintenant, c'est de rationaliser où est-ce qu'il faut mettre nos efforts et les mettre sur l'essentiel. Donc nous, on va continuer de travailler sur ces sujets-là. D'abord pour valoriser ce que l'on a fait et pour préciser ce qui nécessiterait de l'être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une question de moyens qui va se poser si on veut aller beaucoup plus loin. Et cette question de
c'est
moyens aujourd'hui...
C'est toujours l'heure de la guerre. Hein.
Oui, mais là, sur une envergure à laquelle on ne sait pas répondre avec les moyens existants. Voilà. Donc ça, c'est un élément déterminant. Après, il y a beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas sur des aspects santé, ils sont plus sur des aspects techniques, technologiques ou environnementaux au sens large. Et là, il y a un grand nombre de sujets, on pourra en reparler ultérieurement, je suppose.
Audrey Léopold, vous avez terminé ce projet, vous étiez coordinatrice du projet Métallica Aliments. Et maintenant, vous faites quoi? Vous travaillez sur quoi? Parce que je suppose que ça donne des idées quand on fait ce type d'études, etc., etc.
Alors, ça donne des idées ou c'est un élément du puzzle qui vient s'intégrer au puzzle qu'on est en train de construire en tant que chercheur avec une programmation scientifique. Donc, effectivement, le projet Metallica Aliments, sur la partie notamment agricole, s'insérait dans un programme plus large qui concerne la qualité des sols et notamment la qualité des sols agricoles, puisque moi, c'est aujourd'hui mon cœur de métier. Et on travaille notamment à la question de la valorisation des déchets organiques locaux, avec là aussi des problématiques d'ordre réglementaire en lien avec le chrome et le nickel. Et on souhaite effectivement, après plusieurs années sur la valorisation des déchets organiques, chercher à ouvrir en fait la possibilité de valoriser ces déchets sur certains types de sols et certains types de cultures. Donc le projet Metallica Aliments venait justement alimenter indirectement ce projet que l'on appelle le projet Valopro NC en ciblant potentiellement des filières ou les filières les potentiellement les moins à risque vis-à-vis de ces transferts de métaux. Donc voilà, ça s'intègre en fait dans un puzzle global et on continue donc on ne s'arrête pas, on continue.
Et Charles Villot, ça peut vous intéresser, vous, des recherches sur les déchets organiques, parce que je suppose que vous en vous en produisez quand même pas mal.
On en produit, même si on travaille sur le gaspillage au niveau des cantines. On produit des déchets organiques et aujourd'hui, oui, enfin sans être agriculteur, les agriculteurs ils utilisent des engrais ou des amendements organiques. Comment on peut faire là aussi pour favoriser les produits locaux et le faire en conscience, c'est-à-dire en sachant ce que l'on fait et pourquoi on le fait et comment. Parce que, in fine, on en revient toujours là aussi au nerf de la guerre. Plus on arrivera à valoriser les produits locaux, que ce soit dans l'assiette ou même les épluchures, qui du coup là vont sans doute augmenter un petit peu, ça reviendra à un problème de coût. Plus on valorise les produits locaux, plus on fait travailler aussi les Calédoniens, et en plus mieux on mange, donc
tout va bien. Alors.
Tout va bien.
Merci à tous les trois d'être venus dans les studios de Radio Rythme Bleu pour ce magazine citoyen. J'adore le nom de votre étude. Honnêtement, Metallica Aliments, ça le fait. Enfin, pour ouais, exactement. Et Metallica Santé, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus ce midi dans notre magazine citoyen, magazine qui sera disponible en réécoute sur notre site internet d'ici quelques instants, le www.rrb.nc. Bel après-midi.
Le magazine citoyen avec la Province Sud, une province citoyenne.
La Province Sud, agir pour l'avenir.